trois séances d'études que nous allons avoir, et le problème que pose la différence entre la justice, dans le sens juridique du terme, la légalité, et d'autre part, la justice dans le sens moral, c'est-à-dire la moralité. Et nous disposons dans les voies publiques de trois termes, parmi d'autres, mais les trois termes essentiels qui posent ce problème et la tension qu'il y a entre ces deux niveaux de la relation aux valeurs morales, c'est-à-dire donc la justice entendue comme l'égalité, la convention des lois qu'une société se donne, même dans le cas où cette convention coïncide, est homogène avec la moralité vraie. Mais d'une façon générale, la notion de justice dans les sociétés humaines correspond à une constitution, à une législation que la société humaine se donne sans toujours être certaine que ces lois, ce code, coïncident avec la moralité elle-même. Et d'autre part, la notion de la Torah, telle qu'on la trouve dans la tradition d'Israël, en tant qu'elle est censée représenter la moralité elle-même, les valeurs morales dans leur sens essentiel, proposées comme législation. Nous allons prendre comme postulat, si vous voulez, comme écran général de cette étude, le fait que ce qui caractérise, ce qui spécifie la tradition d'Israël à travers les civilisations, et à l'intérieur de cette équation générale que nous rencontrons souvent, Israël, les nations, Israël, les goïms, et dans le sens de ce terme vous est déjà clair, nous aurons d'ailleurs à le réétudier à travers la page du Talmud qui vous a été distribuée, le mot de goïm signifie dans ce sens les nations, c'est-à-dire les sociétés humaines constituées en entité sociopolitique, ce qu'on appelle du terme de nation d'une façon générale. En hébreu, cela se dit goy. Bien entendu, et j'aurai à le rappeler, à la suite des temps, ce terme a été chargé dans les langues juives, dans les langues populaires juives, et finalement c'est devenu un sens classique d'une notion péjorative. Mais nous le prendrons à l'échelle étymologique. Goy, cela signifie une nation, dans le sens habituel que la sociologie adresse à ce terme. Et donc, à l'intérieur de cette expression « Israël les goïms », une des lignes de force de l'analyse talmudique est que la différence essentielle qui rend compte de ce que la Torah appelle l'alliance, la bérit, entre le Créateur et Israël, cette alliance qu'un vocabulaire théologique définit aussi comme une « élection », mais que le vocabulaire biblique désigne surtout comme une sorte de bénédiction, de privilège de bénédiction, vient de ce que, parmi toutes les nations du monde, parmi tous les peuples de la terre, comme dit la Bible, une manière d'être en particulier, la société d'Israël, a accepté ce pari, ce défi, comme on pourrait dire, de faire de la moralité elle-même sa légalité. Alors que partout ailleurs, la légalité et la moralité sont à deux niveaux différents, que bien entendu il peut y avoir coïncidence, correspondance, homogénéité sur tel ou tel point, suivant la caractéristique du génie national de chaque société. En Israël, tel que la Bible décrit cette histoire, il y a le parti pris a priori de n'accepter comme légalité que la moralité elle-même. Et il y a là une catégorie, comme on pourrait dire, ou une ligne de force qui rend compte de l'allure et de la forme du récit biblique au sujet d'Israël. Alors nous allons donc essayer de mettre en évidence ce problème en l'appuyant sur l'analyse d'un certain nombre de catégories particulières du vocabulaire de la Bible lorsqu'elle parle de ces questions. Ces trois notions de tzedek, tzedaka et mishpat. Je vais, en première introduction, très brièvement vous donner la traduction de ces termes, leur explication. Ensuite, nous poserons ce problème, comme le récit biblique le pose, la première fois que ce terme est employé, et c'est à propos de Noach, c'est-à-dire de Noé. Nous avons lu le Shabbat dernier, je pense qu'il y a eu une coïncidence dans la fabrication du calendrier, et nous avons lu la Sidra de Noach, qui raconte qu'un homme a été rescapé d'une catastrophe que la Torah raconte dans le récit du déluge, parce qu'il était tzaddik. Et c'est la première fois que ce terme de tzaddik, le juste, est employé par le vocabulaire biblique. Alors nous réfléchirons sur la définition de ce terme, ce qui nous donnera une première approximation du sens de la notion de tzedek. Et ensuite, nous étudierons dans un passage de la Gemara, qu'on vous a distribué, une discussion du Talmud concernant la nature même de la manière dont les peuples et Israël, chacun de façon différente, ont compris la relation entre la moralité et la légalité à travers ces termes. Alors, premièrement, si vous voulez, les questions de vocabulaire que j'essaierai d'analyser très brièvement, je vous donnerai d'ailleurs la parole immédiatement si quelque chose n'est pas resté clair. En hébreu, la notion de tzedek, qui va donner le mot de tzadik, que l'on traduit habituellement par le juste, signifie très exactement le fait d'être... Slicha, on n'entend pas ? Le fait d'être dans une relation juste avec la loi. C'est-à-dire, dans le premier sens, la notion de juste n'est pas encore chargée d'une signification théologique, celui sur lequel le sort du monde repose. Là, nous verrons par la suite. Mais d'abord, au sens strict, au sens juridique, le tzaddik est celui qui est en accord avec la loi. Tzedek, ça veut dire la justesse. Le fait d'exprimer dans sa relation humaine avec l'ordre des valeurs une volonté d'exactitude. Être soumis à un ordre que l'on a reconnu comme souverain parce que l'on a, chacun à son niveau, pressenti sa valeur, sa signification. Il y a des niveaux dans l'ordre de la vertu du tzaddik. Mais d'un point de vue formel, ce terme désigne l'adéquation à la loi. Et bien entendu, nous sommes déjà dans notre problème, et que signifie la loi ? Est-ce que la loi signifie uniquement la convention sociale qui vise à l'ordre dans la société, la légalité, ou est-ce que la loi signifie la moralité elle-même ? Mais dans tous les cas, ce sera ce terme qui veut désigner formellement une relation d'adéquation à une certaine vérité que l'on accepte comme règle de l'histoire. Et si vous voulez, j'irai jusqu'à proposer le terme de « justesse » avant même celui de justice. En ce sens, la justice serait la justesse au niveau de la vie morale. Et en hébreu, si vous voulez, quelque chose qui est betzedek, c'est quelque chose qui tombe juste, littéralement, qui est exact, qui est conforme. C'est donc le premier terme que nous allons retenir. Alors, si le tzaddik est défini comme étant l'homme qui représente, qui exprime, qui réalise l'adéquation avec la loi, immédiatement un premier problème principal apparaît, celui de la condition préalable à cette identité et cette vertu du tzaddik, et c'est la connaissance de la loi. Si je ne connais pas la loi vraie, je n'aurai donc a priori aucune chance d'être tzaddik. Alors, nous allons, par rapport à la première référence que je vous ai indiquée, réfléchir sur ce premier problème. Ça, c'est donc pour le terme de tzedek. Être en conformité avec un ordre de valeur. Être tzaddik, ça veut dire au niveau de ses actes, de sa conduite, de son comportement, agir comme la loi le demande. Premier problème, il faut donc la connaître. Et la Gemara, comme nous allons le voir, et déjà la référence de la Torah à propos de l'histoire de Noach, nous montrera que la tradition a déjà réfléchi à ce premier problème préalable. Il ne pourrait donc y avoir de tzadikim que dans un milieu humain où la révélation de la loi est assurée. Ou si vous voulez, il y aurait une certaine injustice à poser le problème du salut en termes de être tzaddik, en termes de tzedek, étant donné qu'il est bien évident que la majeure partie des hommes ne sont pas dans le cas d'avoir relation avec la loi vraie. Et pour l'expliquer d'une autre manière, je peux être dans le cas de la bonne volonté de vouloir être tzaddik, Mais pour pouvoir être tzaddik vraiment, il faut que je dispose de cette loi par rapport à laquelle il faut que je sois exact, juste. Si je ne connais pas la véritable table des valeurs, quelle que soit ma bonne volonté, je ne pourrai jamais être tzaddik. Et si le sort de l'authenticité humaine et du sens de la destinée de la créature dont parle la Bible dépend du fait d'être tzaddik, si je ne suis pas dans la situation, dans le cas, dans la condition de connaître la règle qui m'authentifie comme tzaddik, il y aurait injustice fondamentale. Je pense que nous avons tous pris conscience du fait que ce problème est important. Et l'authenticité se définit par l'adéquation à l'ordre des valeurs vraies, parce qu'il faut résoudre ce problème difficile qui est un piège de l'histoire des sociétés, de confondre la moralité et la légalité. Et par conséquent, celui qui n'est pas dans le cas de pouvoir connaître la loi vraie ne pourrait jamais être dans le cas d'être tzaddik. Donc nous réfléchirons à ce premier problème. Et puis nous trouvons très rapidement dans le vocabulaire biblique un deuxième terme, la tzedaka. De façon formelle, tzedek semble être dans la forme masculine, tzedek, la chose juste, mais dite au masculin, le tzedek. Et puis tzedaka, qui est de la même racine, qui a donc un sens très voisin, très analogue, tzedaka a une forme évidemment féminine, ce qui est indiqué par le he, qui est à la fin de tzedek. Et tzedaka, la traduction n'est pas simple à donner en français. Étant donné que c'est la même racine que tzedek, ça veut dire premièrement la justice, ce qui est dû à l'ordre des valeurs, le fait d'être exact par rapport à la loi. Mais cependant, ce terme est employé aussi pour dire ce que l'on exprime en français par le terme de charité. Faire la tzedaka, donner la tzedaka, agir en tzedaka. Et en hébreu, et c'est traduit déjà dans la mentalité des langues juives, qui, sans employer l'hébreu, emploie un certain nombre de mots hébreux avec un sens juif, on dit aussi en français, je suppose, une tzedaka, c'est-à-dire un acte de charité. Et pourtant, c'est un terme qui signifie justice. Donc, nous avons déjà une notion qui est très difficile à cerner dans une langue non hébraïque. Un terme qui signifie à la fois deux contraires, la justice et la charité. Or, je vous donnerai très brièvement une définition de ces deux catégories qui nous montrera qu'il s'agit vraiment de deux contraires. La justice, c'est, par exemple, dans les rapports avec autrui, reconnaître à autrui ce qui lui est dû, ni plus ni moins. Si je reconnais moins à autrui que ce qui est dû, je n'ai pas réalisé la justice. Mais si je lui reconnais plus, j'ai dépassé la justice. C'est déjà l'ordre de la charité. Par conséquent, lorsque je suis occupé à agir avec justice, je viole la vertu de charité, puisque agir avec charité, c'est violer la justice. Je pense que le raisonnement n'est pas trop brusque. Enfin, on peut aussi le nuancer, mais je pense que c'est clair. Quelqu'un qui est juste n'est pas charitable. Et inversement, si je suis occupé à pratiquer la charité, c'est-à-dire à reconnaître à autrui ce qui ne lui est pas dû, et même j'irai plus loin, et bien que cela ne soit pas dû, et justement dans le cas où ça ne lui est pas dû, c'est cela la charité. La charité est gratuite, mais elle est donc la contradiction de la justice. Et voilà que apparaît tout de suite le terme de tzedaka, qui est entre donc le terme de tzedek et celui, le troisième terme qui n'est pas dans votre intitulé mais que j'introduis déjà, celui de chesed, qui signifie la charité. Et l'habitude de l'emploi de ce terme montre que aussi dans les mœurs de la conduite de l'identité juive, on connaît une catégorie de quelque chose qui est simultanément de la justice et de la charité. Or, c'est contradictoire. Donc, nous aurons à essayer de comprendre à quoi répond cette conduite morale de tzedaka. Et elle participe de tzedek, ce qui est indiqué par le fait que la racine est commune. Il s'agit vraiment d'un acte de justice, mais qui est entendu comme dans le comportement comme étant un acte de charité. Ou on peut le dire aussi inversement, c'est vraiment un acte de charité. Par exemple, l'aumône s'appelle la tzedaka aussi. Et cependant, cet acte de charité est considéré comme un devoir. Et la tzedaka, en tant que charité, est considérée comme un devoir. Et là, de nouveau, nous retrouvons la même contradiction. Une charité considérée comme un devoir n'est plus une charité. Ça fait partie du problème général, je veux dire dans son essentiel. Si la charité est considérée comme un devoir, alors est-ce qu'elle est vraiment dirigée vers autrui ? Elle est le fait d'être quitte avec sa propre conscience, et par conséquent on en a une certaine, comment dire en français, en hébreu, hana, une certaine, plus que satisfaction, jouissance, intérêt, et par conséquent il n'y a pas attitude de la charité, ce qui fait partie d'un problème beaucoup plus général, mais qui a la même portée, la notion d'un devoir d'amour, l'amour considéré comme un devoir, c'est contradictoire. La réalité est ainsi, il faut le savoir, mais elle ne peut s'exprimer que dans des langues qui savent la cerner. Dans nos langues rationnelles, si vous voulez, enfin rationnelles, disons gréco-latines, eh bien le découpage n'arrive pas à coder très exactement la réalité comme elle est. Nous savons très bien que dans la vie concrète, il y a des devoirs d'amour, qu'il y a des devoirs de charité, qu'il y a des charités qui sont des devoirs. Mais dans le découpage rationnel des notions, le recodage est difficile à faire. Enfin, quoi qu'il en soit, nous aurons aussi à réfléchir sur le terme de tzedaka, qui est entre chesed, la charité authentique, le fait de donner ce qui n'est pas dû, et d'autre part, tzedek, le fait de donner ce qui est dû en tant que c'est un devoir de le donner, et pas plus et pas moins. Le tzaddik, encore une fois, est celui qui arrive à réaliser cette performance d'incarner en tant que personne un ordre des valeurs qui est la loi, et d'être en conformité exacte avec ce que le code demande. Tandis que le chassid, l'homme de la charité, dépasse constamment, et est constamment en deçà et au-delà de cette limite. Et la notion de tzedaka apparaît, s'introduit entre ces deux limites et demande donc une définition ambivalente. Elle est assez contradictoire. La troisième notion est celle de mishpat. Le mishpat, c'est l'effort d'invention, d'élaboration de la conduite à tenir pour que la tzedaka soit réalise. Je m'explique en français. Il y a un ordre des valeurs. Et l'ordre des valeurs, c'est la loi morale. Et cette loi morale vise un certain critère, le tzedek, le fait de se conduire justement. Et comme nous le verrons tout à l'heure, le problème se pose essentiellement dans la question des rapports entre les hommes. Il y a une définition du tzaddik par rapport à Dieu, mais la question par laquelle nous commencerons dans cette étude, c'est la définition du tzaddik par rapport à l'homme. Le fait de se conduire justement par rapport à autrui. Et avec la dimension très importante de ce problème, qui est la dimension de réciprocité, bien entendu. Et cet ordre des valeurs, nous nous y référons pendant tout le jeu de la conduite, de l'histoire, dans la vie, du comportement des hommes, de telle sorte de savoir comment réagir à autrui, comment juger le comportement que nous devons réaliser de telle sorte d'avoir des chances d'être sadique. Mishpat, le jugement, c'est le jugement d'élaboration de la sanction qu'il faudra formuler. Comment agir ? Étant donné une certaine situation, comment agir de telle sorte que la loi de Tzedek soit réalisée et satisfaite ? Tout cet effort qui mène jusqu'au verdict, c'est le mishpat. Mishpat, c'est la conduite par laquelle l'homme de bonne volonté cherche, selon les critères de la loi, à définir le comportement qu'il doit avoir de telle sorte d'avoir des chances d'être tzaddik. Et je pense qu'on pourrait définir donc ces niveaux des termes de la manière suivante. Tzedek, c'est la justice dans la définition de conformité avec la vérité morale. Mishpat, c'est le jugement de chaque cas particulier, de telle sorte d'élaborer la règle concrète du comportement et de la conduite. Mishpat, c'est le jugement, alors que Tzedek, c'est la justice elle-même. Tzedaka est donc entre ces deux niveaux une conduite qui participe à la fois de la justice et de la charité. Voilà, si vous voulez, notre programme général pour cette première partie de l'étude que nous aurons ce soir. Est-ce que le sens des termes est déjà suffisamment clair? Donc, tzedek, justice dans le sens de justesse, tzedaka, une charité qui est considérée comme un devoir, une justice, mais qui dépasse, si vous voulez, la strictité de ce qui est dû, qui est quand même de l'ordre de la charité, chesed, c'est la charité, et mishpat, c'est le jugement. Le jugement peut être erroné. Vous connaissez tous le verset de la Torah qui réclame des juges en Israël de juger le peuple, les filles mishpat tzedek, le shafetu et aham mishpat tzedek. Mishpat tzedek, c'est un jugement réussi qui mène jusqu'au tzedek, un verdict authentique. Bien, alors si déjà ces termes sont suffisamment éclairés, nous allons aborder le premier problème. Le premier problème, c'est que l'homme est défini comme tzaddik dans la mesure d'une relation de justesse et d'exactitude avec la loi. Et il cherche à ce que sa légalité soit la moralité elle-même. Mais s'il ne connaît pas la véritable table des valeurs de la moralité, alors il ne peut pas être dans le cas de pouvoir être tzaddik. Si donc, par postulat, comme dit d'ailleurs un verset des psaumes, des proverbes, c'est le chapitre 10, verset 25, « Ve tzadik yesod olam », le tzadik, le juste, est le fondement du monde. Si donc, par postulat, nous admettons que l'authenticité humaine se trouve dans cette adéquation à la loi, eh bien, il y a une condition préalable à atteindre, c'est la connaissance de cette loi, hors de quoi la plupart des hommes ne seraient pas authentifiés, ne seraient pas situés dans leur véritable identité. Eh bien, il semble que cette question nous soit posée très directement par l'histoire de Noé. Je vais vous lire deux versets. Le premier, c'est le verset 8 du chapitre 6 de la Genèse, et qui est le dernier verset de la paracha de Bereshit, et où on apprend que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, je traduis provisoirement Hachem par Dieu, et au moment où Dieu décide le déluge. Je rappellerai très brièvement la manière dont la Torah nous donne les données de cet événement. Donc, verset 8 du chapitre 6 de la Genèse, Venoach matzachen beene Hachem. Et Noah a trouvé grâce aux yeux de Hachem, aux yeux de Dieu. Le récit biblique nous montre que l'humanité était arrivée à une saturation de violence, à un état d'amoralité tel, qui est peut-être pire que l'immoralité, où les données du problème moral ne pouvaient pas être même pas posées. Je veux dire que lorsque une société reconnaît la différence entre le juste et l'injuste, choisit pour l'injuste, le cas échéant, mais en sachant lucidement que c'est l'injustice qu'elle commet, les données du problème moral sont encore à l'abri d'un salut possible. Mais à partir du moment où nous nous trouvons dans la situation d'une société qui confond intentionnellement les données du problème moral, c'est-à-dire la différence entre le bien et le mal à la limite, mais la différence entre la justice et l'injustice, présente l'injustice comme justice, alors il y a, si vous voulez, une éclipse de la finalité même de la création dans la cohérence du récit biblique. Il n'y a plus aucun sursis possible, parce qu'il n'y a plus aucune efficacité éventuelle à un sursis possible. Nous nous posons toujours la question, à la lecture de ce récit, de l'étrangeté d'un tel récit. Dans la cohérence de l'ensemble de l'enseignement de la Bible, un récit pareil, c'est-à-dire d'une humanité qui va disparaître tout entière à la suite du jugement de Dieu, S'il s'agissait du jugement des hommes au nom de telle ou telle doctrine politique, on comprendrait que peut-être un jugement soit aussi total, aussi massif, aussi cruel, disons. Mais il s'agit du jugement de Dieu tel que la Torah le définit, El Rahum Vehanun, c'est-à-dire le Dieu de grâce, de miséricorde, le père de ses créatures. Et nous avons un récit qui nous montre que Dieu décide que le verdict, le mishpat, le jugement sera tel qu'aucun homme de tout ce qu'a pu être l'ensemble des individus, des personnes, des familles, des histoires de l'humanité de ce temps-là, aucun homme ne peut être justifié, les hatzdik, c'est-à-dire considéré comme juste. Aucun homme ne peut être justifié, que tous les sursis sont, comment dire, dépassés, et qu'un seul homme, de façon mystérieuse, va trouver grâce, c'est Noé. Le récit, dans sa massivité, est assez étrange. Mais le contexte, finalement, éclaire ce qui se passe. C'est-à-dire, tant que les données du problème moral ont encore une chance d'être cohérentes, alors les sursis sont efficaces. Mais à partir du moment où il n'y a plus de sens à donner un sursis supplémentaire, alors le jugement, le verdict apparaît. Et nous verrons immédiatement que même Noé n'est pas justifié. Il a trouvé grâce, dit le verset. Il faut prendre l'expression à la lettre, au sérieux. Venoach matzachem be'ene Hashem. Et Noé a trouvé grâce, ça veut dire que c'est gratuit. Il y a un mystère, j'emploierai provisoirement ce terme, on ne comprend pas à la lecture du premier récit pourquoi Noé est sauvé. Comme s'il y avait un arbitraire de cette décision de Dieu que tout le monde est condamné, aucun homme ne peut trouver de. On ne peut trouver chez aucun homme de justification au fait de l'avoir créé. Et le verset des Proverbes que je vous citais tout à l'heure, Betzadik Yesod Olam, le juste est le fondement du monde, c'est l'existence des justes qui est la garantie des sursis donnés à tous, jusqu'au moment où le jugement dernier pourra justifier toute l'histoire humaine. Eh bien, même Noé n'a pas de justification, puisqu'il trouve grâce, ça veut dire que c'est gratuit. Je vous citerai immédiatement un midrash qui met en évidence le caractère gratuit de ce salut de Noé. Et le verset dit « Ve Noach matza chen be'ene Hashem » et Noach a trouvé la grâce dans les yeux de Dieu. J'ai un peu modifié le verset avec le midrash. Trouver grâce, ça veut dire littéralement trouver grâce. Noach a trouvé qu'il y avait chen dans les yeux de Dieu. « Ve Noach matza chen be'ene Hashem » Pashut, pshat. Et Noach a trouvé la grâce dans les yeux de Dieu. Mais dans les yeux de Noach, Dieu n'a rien trouvé. Dit le Midrash. Ou Baene Noach, Akadosh Baruch Hu le Matza Klum, Afilu Dima, même pas une larme. De quoi il s'agit? Le fait que Dieu dit à Noé, l'humanité est arrivée à un état d'échec, plus aucun sursis n'a de sens, n'a d'efficacité, je vais donc détruire, effacer tout, si vous voulez, détruire l'humanité, et on, j'allais dire, et on recommencera. Bon, enfin, même pas. Détruire l'humanité. Et le Midrash nous dit que Noach n'a pas pleuré. Alors, n'a même pas versé une larme. C'est-à-dire, pour mettre en évidence le fait que nous étions arrivés, enfin, les hommes étaient arrivés à un degré de saturation de la moralité, en un seul mot, amoral, et par conséquent, aucun sursis n'avait plus de sens. Donc, il s'agit bien d'une grâce gratuite. Un de Midrashim raconte de façon imagée les causes profondes, les causes fondamentales de ce verdict de destruction de l'humanité au temps du déluge de la manière suivante. Il disait, les hommes s'étaient habitués à des mœurs telles que, par exemple, un paysan apportait un sac de graines au marché. Les habitants du village faisaient la queue devant le sac de graines, et chacun en prenait une. Au bout d'un certain temps, il ne restait plus de graines, du blé ou du maïs, c'était en fait des lupins, tourmousines, et il ne restait plus de graines dans le sac du paysan. Mais personne ne pouvait être accusé de vol, parce que personne n'avait volé le sac, puisque chacun n'avait pris qu'une graine. Alors c'est une des images que donne le Midrash, des illustrations que donne le Midrash pour montrer l'état d'une société où les données du problème moral ne sont même plus préservées, et par conséquent, il n'y a plus aucun sens à donner un sursis à l'histoire. Nous avons déjà vécu plusieurs fois dans les temps contemporains des épisodes de cet ordre. Probablement, c'était déjà expérimentable avant les premières guerres mondiales. On sentait que dans les relations humaines, dans les relations entre sociétés, la légalité avait définitivement pris le pas sur la moralité et que la légalité faisait fi de la justice. L'état, si vous voulez, de la société était tel qu'une catastrophe était inévitable. Je pense que lorsqu'on relit les littératures d'avant la guerre de 1914, d'avant la guerre de 1900, comme c'était déjà l'autre, 39, et on reconnaîtrait exactement ce qu'on lit dans les journaux aujourd'hui, c'est-à-dire que les données du problème moral sont définitivement faussées. Je n'ai pas dit qu'il y aura bientôt une guerre mondiale, mais je n'ai pas dit le contraire non plus. L'atmosphère, en tout cas, de la relation humaine est telle que la Torah la décrit. Et voilà donc le premier verset. Benoar matzachem be'ene Hashem. C'est vraiment une grâce. Verset suivant, qui est le verset 9, donc du chapitre 6, et qui se trouve être cette fois le premier verset de la Sidra de Noar, et les Toldot Noar, voici l'histoire ou les engendrements de Noar. Noar il tzadik, Noar, homme juste, tamim haya vedorota, il était intègre dans sa génération. Et ha'elokim, et ha'lech Noar, et Noar se conduisait avec Dieu. Je vais mettre en évidence une expression de ce verset qui nous définit Noar comme étant ish tzadik, homme juste. Et par conséquent, c'est la première fois d'ailleurs que le récit de la Bible, de la Torah, emploie ce terme pour définir un homme, que Noar était tzadik. Et par conséquent, immédiatement apparaît une contradiction entre les deux versets que je viens de vous lire. Le premier verset dit que Noar a trouvé grâce. Le deuxième verset dit que Noar était juste. Vous comprenez comment la question va se poser. Première hypothèse, pourquoi a-t-il trouvé grâce? C'est parce qu'il était tzadik. C'est, si vous voulez, l'hypothèse la plus simple de lecture. Pourquoi Noé a été sauvé? C'est parce qu'il était juste. Nous verrons immédiatement que cette hypothèse de lecture est fausse. En tout cas, qu'elle n'est pas celle de la tradition juive. Mais je vais d'abord l'analyser. Quoi qu'il en soit, elle implique un enseignement très positif. Si on arrive au temps de catastrophe, où le Mishpat, qui cherche le Tzedek, l'objectif du Mishpat, c'est de juger l'histoire d'après les critères de la justice. Si au temps de catastrophe, ce sont les justes qui sont sauvés, ça signifie que pendant tout le temps du sursis, ce sont les justes qui sont la garantie du sursis. Je pense que le raisonnement est suffisamment clair. C'est-à-dire, bien évidemment, on ne peut pas dire que jusqu'à la fin des temps où le jugement dévoilera que l'humanité a réussi son histoire, mais pendant tout le temps de l'histoire, on ne peut pas dire, pour peu que l'on connaisse la loi, la moralité vraie, on ne peut pas dire que l'humanité justifie le fait d'avoir été créée. Elle est à l'abri d'un acte de grâce. Ce que dit le premier verset, Benoach Matzachen Benéach, elle est à l'abri d'un sursis. Lorsqu'on fait le bilan, si vous voulez, de ce qu'est l'histoire réelle des hommes, on ne comprend pas pourquoi Dieu a créé ce monde. Et cependant, ce monde existe. C'est donc que le monde est à l'abri d'un certain sursis. Qui est ce sursis? Qui est le fondement de ce sursis? Ce sont les justes. Et à chaque génération, dit la tradition talmudique, comme vous le savez, il y a au minimum 36 justes qui sont la garantie de ce sursis, de cet abri qui est donné à l'histoire jusqu'à ce que l'histoire réussisse. C'est la traduction de Lamedvar Tzadikim, que vous connaissez certainement. Elle est d'ailleurs étroitement rattachée, cette tradition, à notre verset, Elle est Toldot Noar, voici les engendrements de Noar, Elle est Toldot Noar, voici l'histoire de Noar, et c'est l'histoire des justes qui seront issus de Noar, et la gamatria du mot de « elle » est de 36, c'est la raison pour laquelle la Gemara rattache cette tradition à un verset d'Ésaïe, du prophète Isaïe, « Ashre la mahake lo la medva », ça fait 36. Bon, je referme la parenthèse. C'est que, à chaque génération, donc, les justes sont la garantie du salut possible. Mais dans la lecture juive de ce texte, il y a contradiction entre les deux termes. On ne peut pas expliquer de la manière suivante. Pourquoi Noé a trouvé grâce? C'est parce qu'il était juste. C'est-à-dire, il était capable de se conduire d'après la loi de vérité morale. Pour lui, c'était la moralité qui était la légalité. Alors, il a trouvé grâce. En fait, s'il était vraiment tzaddique, il n'a pas besoin de trouver grâce. C'est son mérite qui fait qu'il est sauvé. Il y a là véritablement une contradiction entre la notion de mérite et la notion de grâce. Est-ce que c'est suffisamment clair jusque-là? Vous comprenez comment le problème se pose? Et les commentateurs, je ne voudrais pas entrer trop profondément dans l'exégèse, enfin, les commentateurs, et en particulier Rashi, citent à ce propos l'enseignement du Midrash, en nous disant que si la Bible, si la Torah avait voulu expliquer la raison pour laquelle Noé avait trouvé grâce, par le fait qu'il était juste, eh bien, ce qualificatif nous aurait été donné dans le premier verset. Nous aurions un verset de la manière suivante, « Venoach ish tzadik matzachen b'ene Hashem », c'est-à-dire « Et Noé, homme juste, a trouvé grâce aux yeux de Dieu ». Mais en fait, on nous dit que Noé était juste que dans le deuxième verset. Et c'est pourquoi, lorsque vous relirez Rashi sur ce verset, vous le verrez de façon très claire, Rashi nous dit que si la Torah nous a dit que c'était un homme juste, c'était pas du tout pour nous expliquer pourquoi il a trouvé grâce, parce qu'en fait, grâce, il a trouvé, mais pour nous faire comprendre que il n'était pas le contraire d'un juste, qu'il n'était pas rachat. C'est pour nous faire savoir qu'il était tzaddik, mais pas pour nous expliquer la raison pour laquelle il a été sauvé. Que cependant il était tzaddik, pour nous dire son shevar, pour nous dire sa louange. Je vais quand même vous lire Rashi pour que ce soit plus clair. Rashi dit ceci: Roil veiskiro siper mishbachu, shenema zecher tzaddik libracha. Ça veut dire, puisque le texte a cité le nom de Noah, alors il cite aussi sa louange, il le qualifie comme étant tzaddik. Et cette note de Rashi veut bien nous faire comprendre que l'intention du texte de la Torah n'était pas d'expliquer pourquoi Noé a trouvé grâce. Donc nous nous trouvons devant deux catégories bien précisées. La grâce est donnée de façon gratuite, absolue à Noé, et il y a donc un mystère. Pourquoi Noé a été sauvé, premièrement. Et deuxièmement, nous apprenons que Noé était un tzaddik. Eh bien, à partir de cette donnée, nous pourrons nous poser le problème de la relation entre le tzaddik et la connaissance de la loi. Effectivement, la tradition talmudique explique qu'il y a deux sortes de tzaddikim. Le tzaddik de Bnei Noach, qu'on appelle les chassidei Umot HaOlam, c'est-à-dire le tzaddik de l'alliance de Noach, le tzaddik à la manière de Noach, et le tzaddik d'Israël, le tzaddik de la lignée d'Abraham. Et la différence entre ces deux niveaux, c'est effectivement la connaissance de la loi vraie. C'est-à-dire le tzaddik de Noach, à la manière de Noach, est celui qui est défini formellement dans la relation entre la bonne volonté et la loi, quelle que soit la manière dont il connaît sa loi. Je m'explique. Celui qui veut, préfère le bien tel qu'il le connaît au mal tel qu'il le connaît. C'est-à-dire que c'est un premier niveau de la définition du juste au niveau de la bonne volonté. C'est une attitude de la volonté par laquelle l'homme préfère le bien au mal. Ou, pour reprendre les termes de notre sujet, préfère la moralité comme loi de son comportement. Préfère trouver dans la moralité la légalité plutôt que dans une convention de nature sociologique. et non pas morale. Et par conséquent, tout homme, qu'il soit ou non dans le cas d'être relié à la révélation de la loi vraie, peut être tzaddik au niveau du tzaddik de Ben Noir, puisqu'il s'agit d'un jugement, d'une définition au niveau de l'attitude de la volonté. Celui qui, de façon systématique, préfère le bien tel qu'il le connaît au mal tel qu'il le connaît, est nommé par la Torah tzaddik et cela qualifie Noir déjà. Alors que le tzaddik issu d'Abraham, de la lignée d'Israël, lui au contraire va être défini comme étant tzaddik par rapport à la loi morale vraie, ce qui sera en fin de compte historiquement la révélation donnée à travers la loi de Moïse. Donc, deux niveaux, le tzaddik de Ben Noir, qui est défini formellement dans la relation entre la volonté et la loi, et d'autre part, le tzaddik d'Abraham, le tzaddik d'Israël, qui est défini dans la relation avec la vérité de la loi. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et pour revenir à notre verset, cela signifie ceci, que Noé n'avait pas de mérite suffisant pour être sauvé par son mérite. Et par conséquent, s'il a été sauvé, c'est par grâce. Cependant, ce n'est pas n'importe qui a été sauvé. C'est un homme qui était déjà dans le cas de pouvoir être tzaddik. C'est-à-dire, par lui, s'est ouverte une porte dans l'éventualité du salut possible pour l'avenir de l'humanité. Mais il n'avait pas suffisamment de mérite, ni pour être sauvé lui-même, ni pour sauver sa génération. Cela sera le cas d'Abraham. Ce que nous étudierons plus en détail, la différence entre Noé et Abraham en tant que tzaddik, dans la troisième des leçons que nous aurons jeudi soir. Mais il y a donc eu une grâce, et cependant, cette grâce, bien que gratuite, n'est pas arbitraire. Ce n'est pas n'importe qui a été sauvé par grâce. C'est celui qui porte déjà, si vous voulez, la première étape, la première dimension de la possibilité du tzaddik, telle qu'elle se développera par la suite dans la lignée d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le verset qui définit Noir comporte ce terme de toldot, qui signifie simultanément l'histoire et les engendrements. C'est-à-dire comme si c'était les engendrements de Noir qui avaient sauvé Noir. C'est parce que Noir porte en lui-même la semence d'Abraham qu'il a été sauvé. Donc, au niveau, si vous voulez, du mérite individuel dévoilé de Noir, il y a grâce absolue. Mais cette grâce n'est pas arbitraire, il y a un sens, il y a une raison pour laquelle Noir a été sauvé, c'est parce qu'il porte en lui, en germe, la possibilité de l'identité d'Abraham. Nous sommes renvoyés à une catégorie talmudique extrêmement importante, et qui est Bera Mezake Abba, ça veut dire, c'est souvent le fils qui sauve le père. À chaque génération, l'histoire nous est incompréhensible. On ne comprend pas pourquoi le salut passe par un tel plutôt que par un autre. Étant donné que, si vous voulez, au niveau de chaque contemporanéité, de chaque présent, finalement, le mérite ou le démérite des individus est assez analogue. Et le sort des individus nous apparaît comme incompréhensible, parce qu'il semble y avoir un arbitraire qui fait fi du fait que les justes sont des justes analogues, ou les non-justes sont des non-justes de façon analogue. Et puis, par un tel passe une confirmation plus importante, par un autre, moins importante, de la destinée humaine. Ce n'est qu'en fin de compte qu'il se dévoile que, en dépit d'une capacité de mérite apparemment analogue, en potentiel, l'avenir de la lignée que chacun portait était différent. Est-ce que c'est suffisamment clair, si vous voulez ? Si nous nous posons la question, parmi tous les justes à la manière de Noé, qui vivaient au temps de Noé, et certainement ils étaient nombreux, pourquoi celui-là seul a été sauvé ? Noé, Noir, le texte nous répond, c'est parce qu'il devait être l'ancêtre d'Abraham. Mais cela, aucun contemporain de Noir ne peut le comprendre. Dieu seul le sait déjà. Donc, Noir a été sauvé vraiment par grâce, Mais il y a une raison, parce qu'il est déjà à un certain niveau du tzaddik, ce que dit le deuxième verset. Et ne croyez pas que ce noir était le même, comment dire, brigand que ses contemporains. Non, noir était tzaddik. Mais une forme de tzaddik qui ne suffisait pas à être le fondement du monde ou le salut du monde, le tzaddik à la manière de noir, c'est-à-dire, il était, si vous voulez, tzaddik formellement dans le sens philosophique du terme. Il préférait faire ce qu'il savait être bien à faire ce qu'il savait être mal. Mais est-ce que il était vraiment, absolument, le juste de la vérité morale, celui qui est capable de trouver dans la moralité elle-même la légalité? Voilà quel est, si vous voulez, le donné de notre problème. Eh bien, à partir de cette introduction, que j'aurais voulu beaucoup plus brève, nous allons pouvoir aborder un enseignement du Talmud qui va comparer